L'Association pour le développement du documentaire radiophonique, ADOR, a le plaisir de vous présenter Schizophonie. De Rislam Hakim. Cette œuvre fait partie de Sentier Sonore, sélection de créations sonores documentaires à destination des radios locales.
La montagne?
La montagne n'est pas à toi. C'est Angoulême?
Oui.
C'est comment Angoulême?
Angoulême, c'est petit.
Ça ressemble à quoi?
C'est joli. Je t'enverrai des photos. Et il y a une vue un peu panoramique sur Angoulême. C'est joli. T'as une sacrée toux, hein?
Oui.
Il faut que tu te soignes.
Oui, c'est vrai.
Quoi de neuf, sinon?
J'ai acheté du Lacoste.
Oh, purée. T'as acheté ça quand?
Dans un hôpital.
Quand j'étais petite, il jouait de la guitare jour et nuit. Jimi Hendrix résonnait sans cesse dans la maison. C'était inné chez lui. Le talent s'est peu à peu évaporé, son sourire effacé, son regard s'est éteint. Du haut de mes 11 ans, j'apprends les mots psychose, contrainte, contention. La gravité de la situation me frappe dès que je franchis la porte de l'hôpital. L'été dernier, j'y suis retournée pour lui rendre visite, en état de choc. Au fil des années, le même schéma infernal se répète. Cohabitation chez maman, crise psychotique ingérable, hospitalisation en psychiatrie. Mars 2012. Le diagnostic tombe. Il a 15 ans. Mon frère est atteint de schizophrénie.
Ça,
essaye.
C'est un micro.
On fait quoi avec?
Regarde, vas-y, mets le casque.
Ah, c'est comme les reporters.
Voilà.
Alors, il y aura des perturbations sur le train mental, notamment dans le Midi-Pyrénées. Et.
T'entends?
Ouais,
gauche.
J'entends, ouais.
Et là, droite.
Gauche-droite,
ouais.
Ok, ah, c'est super.
Regarde, parle dans le micro.
Ça filme?
Fais droite. Non, c'est que du son.
D'accord, c'est pour enregistrer.
Voilà.
Un, deux, test micro. Un, deux,
fais
deux.
Fais droite-gauche, tu vas voir.
Un, deux, gauche, droite, droite, gauche, gauche.
T'entends?
Un, deux, droite, gauche.
Ça,
de l'enfer. De l'enfer.
Alors, il y aura des perturbations sur le train montagne, notamment dans le Midi-Pyrénées. Voilà, nous sommes dans une ville froide.
Quoi?
J'aurais suivi la guerre d'Israël.
Pourquoi?
Parce que ça me plaît, j'aime bien la guerre.
T'aimes bien la guerre?
Ouais.
C'est pas vrai.
Ouais.
T'aimes pas la guerre, toi?
Si, j'aime bien.
Non.
Si. En direct de l'enfer.
T'aimerais bien faire du cinéma?
C'est quoi? Le cinéma, c'est un acteur?
Non, tu me dis que t'aimerais bien filmer. Ça veut dire que ça te plairait, en fait, d'être caméraman.
Moi, enregistrer seulement.
Enregistrer.
Comme toi, avec ça.
Ah, le son.
Ça.
Pourquoi?
J'aime bien. J'ai vu ça à la télé.
Ouais.
Pas caméraman, mais ça fait penser au Daily Bugle dans Spider-Man. Oui, Spider-Man.
ma mère.
On se trouve à l'hôpital. On est convoqué par une psychiatre. Elle nous annonce le choc post-traumatique et la maladie. Que ce soit moi-même, la maman ou mon fils, on a hurlé. On ne voulait pas le croire, donc c'était un déni. À ce moment-là, j'étais dans la possibilité de parler. J'ai dû faire appel à ma grande-sœur, qui était ma personne de confiance. Donc c'est elle qui parlait en notre nom.
Ma tante, la grande-sœur de ma mère.
Déjà, j'étais assez surprise parce que je n'ai pas vu la maladie s'installer. Alors que je suis quand même infirmière en psychiatrie. Quand je suis arrivée dans le bureau et que la chef de service a parlé de schizophrénie, j'étais un petit peu en état de choc, sauf que je ne l'avais jamais vue délirer. Il y avait sa maman, le médecin, je me rappelle, lui parlait de la personne de confiance, dans le sens suivre le dossier médical avec elle. J'ai eu tout apporté, puisqu'elle était en état d'épuisement. J'ai découvert son fils complètement délirant. Et puis, tout ça, ça a été révélé, j'ai envie de dire, grâce à la petite fille, enfin, Rislane.
Rislane. Mon prénom est Rislane. On parle de moi à la troisième personne. Je suis la troisième personne. Mon frère, ma mère, puis moi parfois. Révélé. 12 ans plus tard, la petite fille révèle encore l'indicible. J'ai toujours été là, dans un coin au loin ou souvent trop proche. Une proximité parfaite pour enregistrer.
Pourquoi tu penses à ça?
Je puis à l'hôpital, c'est là où il y a les requins. Là, c'est des requins. Ils doivent porter mes griffes pour aller voir les requins. C'est là où il y a les requins. Là, je ne veux pas aller. Là, il y a les requins. C'est là où ils vont faire du mal. J'ai échappé bien, j'ai mon affaire pour l'instant, mais c'est là où il y a des requins. Elle m'en d'accord, moi. Non, je suis précieux, c'est plus envoyé à l'hôpital. Bon, pas là, il y a des requins, c'est là où il y a des requins, d'accord. Tu comprends? Ah, tu comprends. Ah bon. D'accord, moi.
Été 2023. Je déteste cet hôpital, je le connais trop bien. Quand est-ce que je vais le revoir? Pourquoi l'infirmière lui parle sur ce ton?
Ça vous contrarie tout ce qu'on dit, hein? N'aimez pas trop, hein? Bah ouais, oui, mais... Après, il faut une acceptation aussi de votre état, de l'injection, enfin des traitements. Acceptation de votre maladie aussi. Il y a plein de gens qui sont sous injection et qui vivent normalement comme tout le monde. Il y en a même qui ont un travail, et on ne voit pas du tout qu'ils sont malades. Hein. Ils ont une injection tous les mois ou tous les 15 jours, ça dépend.
Juillet 2021, le petit déjeuner de mes 20 ans. Pas de place à la fête.
Tu es une horrible femme. Tu es l'antéchrist.
Face à lui, je sais que je dois garder l'attitude calme. Et ne pas répondre.
Amener son fils avec du mal de soi, voir le paradis sur son dos, c'est dégueulasse. Tu me forces à le faire, tu me forces à dire tout ça.
Sur le moment où j'ai du mal, je le prends mal.
Tu es dégueulasse. Tu veux séparer tout le monde, tu es dégueulasse. T'en as marre de moi, tu es dégueulasse.
Voilà, je vois qu'il perd le contrôle. Dans l'immédiat, je le prends pour moi.
T'as failli foutre en l'air, tu es dégueulasse. C'est méchant ce que tu m'as fait. C'est dégueulasse de me faire ça. Je suis tranquille, tu veux me laisser tranquille? Vous aimez tous cette attitude dans la famille, vous me dégoûtez. J'ai pas d'être avec vous.
Mon enfant, d'habitude, est passif, calme, gentil. Puis assez rapidement, je lui dis mais non, c'est la maladie.
Ces dimensions-là, on les voit pas quand on travaille comme infirmière à l'hôpital. J'ai fait des réunions avec lui où il disait tout allait bien, parce qu'il parle super bien. L'éloquence chez lui, c'était incroyable. Moi, je me rappelle de la réunion MDPH où il disait qu'il n'était pas malade, qu'il parlait plusieurs langues étrangères, qu'il avait eu son bac. Dans la réalité, dans la maison, ce qui se passait, ce n'était pas du tout ça. Il en mettait partout. Il y a un arrêt de bus.
il ne prend pas parce qu'il faut qu'elle le conduise en voiture. Il met du linge partout, il laisse tout traîner. Quelquefois, elle est au travail, il débarque. Elle n'est jamais tranquille, vraiment. Ce n'est pas le rôle de sa mère de continuer de faire le boulot qu'elle fait. Et j'explique ce qui se passe dans la maison, mais si jamais je ne l'avais pas arrêté, son discours, il n'aurait jamais été reconnu handicap. Je savais que quand il venait, c'était difficile, mais j'acceptais quand même, à l'époque, de le faire venir. J'arrivais encore à échanger avec lui, j'arrivais encore à lui faire faire des choses à l'époque, mais petit à petit, il en a fait de moins en moins. En fait, ça s'est aggravé.
Aggravé, euphémisme. Je ne reconnais plus mon frère. Il s'oublie lui-même aussi.
Déjà, je crois que je suis coiffeur, en fait, j'arrive pas à comprendre. J'ai perçu tout à l'heure comme bac.
Elle, comme toi.
C'est célibataire, toi aussi. C'est que c'est célibataire comme moi. C'est sûr, sinon je suis coiffeur, moi. Sinon, je suis coiffeur.
Non, non, t'as eu un bac.
Tu veux un bac, elle. Je suis pas coiffeur.
Non, c'est bon. Je
suis trop fort, je crois que j'étais coiffeur, je vais me faire dégrader. Je crois que coiffeur parce que je crois qu'on bac, c'est un bac de coiffeur.
Non, t'as eu le bac L, il est même là derrière. Oui. T'es pas coiffeur.
D'accord, bon, je vais faire des vêtements trop cool. D'ailleurs, c'est dégradé.
Dégradé. Comme à la maison, où le chaos s'est installé. Septembre 2022. J'arrête mes études avec l'idée illusoire de sauver ma famille. 6 mois, au cœur d'un cauchemar réveillé. Tous mes sens à l'arrêt. Figé, au rythme de mon frère, pour entrer en symbiose avec lui à la recherche d'une issue. Manger, dormir, manger, pleurer. Pleurer au réveil, ne plus vouloir se réveiller. Vide, impuissance. Combien de temps j'aurais pu rester? Nouvel an 2023, le lendemain. Le jour même, j'ai décidé de ne plus jamais revivre à la maison. C'était eux ou moi.
Nous, je reste pas dans cette maison. Il y a le bordel. Et c'est honteux ce que tu me dis. C'est le jour de l'an, je te jure que c'est honteux.
J'en ai marre, j'ai plus d'espace.
Tu as rien à dire, je suis bérette.
J'ai pas d'espace.
Je suis insupportable. Regarde, l'espace, il se réduit, j'ai plus rien. Il ouvre mon portable, tu prends ma carte,
mais
j'ai plus de vie.
Hey, j'ai des
moi, je vais demander au médecin, tard, tu rentres cure,
je veux rien. Je suis bête, je vais te manger. T'arrêtes. Je suis pas CAP, je suis un mec, je vais le manger. Je vais le manger, t'arrêtes.
Je suis à bout.
T'as bien aimé ton cadeau de Noël ?
Ouais.
Je suis en train de travailler sur mon documentaire.
C'est quoi ?
Sur toi, sur la famille, sur moi.
D'accord.
Ouais. Oui. Et je vais peut-être remonter pendant les vacances de février. Je pense pas.
D'accord. Ah, reviens à la maison, ouais.
Tu t'ennuies pas trop ?
Oh, ça va, je reviens à la télé. Je dors aussi. Ah, c'est super que je puisse parler comme ça.
Au téléphone ?
Ouais.
Tu as d'autres contacts que tu peux appeler aussi ?
Des amis ?
Ouais.
Non, j'ai sur Facebook. J'ai plus un numéro. Je crois que je dois te parler. Tu me manques.
Obsession. Je suis enfermée dans le spectre de sa maladie. Je l'emporte dans mes bagages, dans chaque appel, dans ma solitude, dans ma nuque tendue. Elle me hante. En route vers la maison, entre deux déménagements. Maman au bout du fil. Le jour de mon arrivée, mon frère sera interné. J'entre en master. Lui se retrouve à nouveau entre ces quatre murs blancs. Pas de couleur, pas d'horizon. Le silence. Cœur qui s'emballe. Souffle coupé. Attaque de panique. Le médecin prescrit un anxiolytique. Cette boîte restera fermée. Je ne peux pas être malade. Prémisse d'une lutte vertigineuse contre l'angoisse.
La maladie est au centre de la famille, des conversations, de nos vies, carrément.
Tu as toujours été calme, tu as été obligée d'être calme. Je pense que tu ne voulais pas en rajouter à ta maman.
Ta vie n'est plus la même, et... ni la mienne, ni la tienne, mais toi, bien sûr, y a un impact. Et tu dois accepter quand même qu'il y a une maladie et que tu dois faire avec.
Elle voulait que tu vives, elle voulait que tu ris, elle voulait te sortir du système dans lequel elle est enfermée avec son fils.
Quoi qu'il arrive, nous sommes une famille. J'ai deux enfants. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier, parce que dans la maladie, je dois donner beaucoup plus de temps à ton frère qui se trouve dans l'état dépendant.
Je voulais que tu sois suivie, mais ça n'a jamais été possible que tu aies un psychologue. Même petite, je me disais, mais enfin, elle a quand même vécu des choses difficiles, mais il ne fallait pas parler.
Tout ce qui était interne, en fait, on devait le ralentir, parce que ton frère n'aimait pas le bruit. Il fallait éviter qu'il y ait du bruit dans les maisons.
Après, ce qu'il y a dans l'oreille, ça va être sujet. Est-ce que c'est une gêne ou est-ce que...
Non, c'est comme, comme un gadget ou un truc comme ça qu'il trouve jusqu'à trouver sa tête et qu'il l'envoie. C'est un gadget. Ça, c'est un parc qui envoie ce qu'il met sur la tête. Comme un gadget ou je sais pas. Je trouve ce gars, je démonte.
Bon, ça, je peux rien parce qu'il est en train de...
Non, mais il a le droit d'extérioriser.
Je trouve ce PD, je vais défoncer.
Mais c'est pas rationnel, justement.
C'est un sale PD qui a mis en ouverture la tête au projet de mon bar. Il est déjà au moins.
Ok.
Sans ce gars, je vais défoncer.
Il se met à l'intérieur maintenant.
Mais t'es pacifiste, toi, là-bas.
Je peux être pacifiste, non.
Donc t'as quelque chose qui te gêne.
Moi, à cause de ça, au part, j'ai... La nourriture en mauvais goût, mais j'ai fait quelque chose. La nourriture en mauvais goût, j'ai plus de café.
C'est dans ta tête.
Non, c'est lui qui me pose, ça rend. J'ai pas de petit gadget, mais c'est un intelligence bizarre, j'ai un peu comprendre. C'est un intelligence bizarre, j'ai un peu comprendre.
C'est juste des frayeurs, c'est dans ta tête.
Et d'être sous ma vie, je suis dégoûté.
C'est juste du stress.
Fallait rien dire. Donc, du coup, tu portais les choses tout le temps, dans ton corps. Tu les portais vraiment.
À un moment donné, je me dis, mais tout va bien. Malgré tout ça, mon Rizlan, elle est très mature.
Et je me disais, mais à un moment donné, il faut l'aider aussi. Mais non, mais elle est forte. Elle est forte. Bah, oui, elle a beau être forte, mais émotionnellement, c'est quand même pas facile.
Ah, je sais très bien qu'elle m'exprime. Elle n'exprime pas... Elle ne parlait pas de sa douleur face à ce qui se passait au départ. On ne parlait pas, on ne pouvait pas.
N'importe qui serait choqué dans un système pareil, mais non. Pour ta mère, c'était lourd ce qui se passait à la maison. Il ne fallait pas que ça sorte.
Oh, et... Elle s'exprimait donc avec ses tantes, heureusement.
Le fait que tu ailles bien, enfin, pour ta mère, c'est ce qui l'aide à tenir debout quand même.
Juillet 2023, 1000 km au sud.
je vais au boulot ce matin, j'appelle ma mère, je prends des nouvelles et j'apprends que mon frère voulait partir à l'aéroport Charles de Gaulle, sans papier, sans bagage. Et en fait, j'ai une émission radio dans 10 minutes. Il faut que je compose avec ça. Je suis loin, je suis inquiète. Je pensais que tout ça, c'était derrière et que ça allait aller mieux. C'est pas le cas. Je dois essayer de faire comme si ça allait. Parce que je suis au boulot et que c'est la seule chose qui me réconforte.
Cette histoire, elle me trouble encore.
La petite sœur de ma mère.
Ça s'est passé en 2012, en mars 2012. On est en 2024. J'ai jamais trop compris ce qui s'était réellement passé, les conditions dans lesquelles Ismaël a décompensé. Ça a été soudain, parce que j'apprends par ma famille que mon neveu Ismaël et ma nièce, toi, Roselyne, vous avez disparu. Donc, il y a une enquête qui est ouverte. On appelle ça une disparition inquiétante au départ. Alors, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin à ce moment-là. Et on finit par trouver toi et ta maman et pas Ismaël. Par la suite, j'apprends qu'il est en Espagne. Je pars justement en Espagne pour aller le chercher. Je ne peux pas moi-même en tant que tata prendre un enfant mineur avec moi. Et donc, je passe au tribunal et je rentre en France et je l'emmène directement à l'hôpital le soir. J'ai ce compte rendu. Déjà, ça me surprend, c'est que en 2012, Ismaël pèse 66 kilos. Alors qu'aujourd'hui, je connais pas son poids, mais je pense que ça doit être largement plus du double. Parce qu'il y a aussi un peu de boulimie, je crois, qui a dû aussi se greffer sur son état psychologique. Je savais que c'était très, très, très compliqué pour elle. Avec tes enregistrements, j'ai vu le cauchemar, en fait. Ça m'agace. C'est pas Ismaël, en fait. C'est pas lui, c'est la maladie à qui je m'adresse. Il est là, mais il n'est pas là.
Schizo. Fendre. Frêne. Esprit.
Pour vous, c'était pas possible. Vous étiez dans un espèce de huis clos morbide. Ouais, je vais dire le mot morbide un peu. C'est toi qui pouvais, par exemple, dans des situations de crise, c'était toi qui pouvais gérer ça avec tranquillité, alors que je suis persuadée qu'à l'intérieur de toi, ça bouillonne et ça va exploser. Mais tu sais la gérer tranquillement et tu trouves ça d'ailleurs normal.
Je fais tout pour que tu ailles mieux, Ismaël. Écoute, on va acheter 20 kebabs et on va les manger tous les deux. Moi, je suis d'accord, on va à l'hôpital. J'en peux plus. Je n'en peux plus.
T'étais bonne élève en cours, t'as eu ton bac au la main, tout va bien. C'est après que j'ai vu, parce que ça n'allait pas. J'étais impactée. Tu n'es pas qu'un dommage collatéral. Tu es aussi au milieu de ce bordel. Pourquoi aujourd'hui, tu les angoisses qui viennent, et des fois on se demande pourquoi je n'ai pas à être angoissée, tout va bien, l'école ça se passe bien, et pourtant c'est parce que j'ai une espèce de pieuvre à l'intérieur de moi qui me fait du mal, j'ai mon cœur qui se serre, j'arrive pas à respirer, je sais pas pourquoi. c'est tout ça, en fait. Je pense que la meilleure décision que tu as prise, après, c'est de dire il faut que je m'éloigne pour sauver ma peau et pour ma santé mentale.
Il y a ma tante qui m'appelle. Je suis désolée, je peux pas te parler maintenant. Mais c'est maman, je l'appelle. Et elle me dit à la fin de la discussion entre deux phrases que Ismaël il va peut-être être sous tutelle et qu'il y a un risque qu'il soit en foyer de vie. Comment tu veux que j'imagine mon frère en foyer de vie avant 27 ans? C'est pas possible. Un foyer, quoi, c'est vraiment la dernière solution. Enfin, il n'y a plus d'espoir, c'est la mort. Moi, je peux plus supporter des appels comme ça. Je suis censée aller continuer, genre aller en cours le lendemain, comme si de rien n'était. Pour moi, le foyer, c'est la fin. Il pourra jamais être autonome, jamais avoir sa propre vie, jamais avoir d'appartement. Je place ça comment? Moi, là, je suis en pleine période d'examen, j'essaie de m'occuper de moi. Je peux pas l'imaginer en foyer. Pas maintenant. J'ai mon cœur qui bat super fort. Je sais pas comment je vais faire.
Là, il a préparé un peu de linge sale. C'est bien. C'est toi qui vas faire tes lessives, hein. On va aller chercher ton linge et puis il va prendre son portefeuille. Alors, le portefeuille, c'est pareil. Si tu le ramènes dimanche soir, on fait comme ici, on remet dans le casier. Ah oui, ça, on est sûr qu'il ne perd pas ses affaires.
C'est moi, je vais laisser, bon, je fais confiance.
Ah après, oui. Mais nous, ici hein, tu le mets dans ton casier où tout est fermé à clé.
Oui.
Parce que comme il y a ses papiers d'identité, oui, sa carte, il ne faudrait pas les perdre. Ah, allez, viens, on va aller chercher tout ça. Bonjour.
Je vais vous donner l'affaissement. Donc, il y en a deux. Et pareil pour demain matin, dimanche à 8h. Il y en a deux aussi.
Allez, bonne permission, bon week-end.
La première fois que je suis rentrée, je me suis sentie très mal. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mon fils est voilà, la personne est enfermée.
On l'a découvert en isolement.
Moi, être confrontée à cela, c'est... Je l'espère à personne.
C'est un enfant qui est seul. Moi, je connaissais les chambres d'isolement, comment il va vivre ça.
Qui a donné l'autorisation, je n'en sais rien. En tout cas, pas moi.
Plusieurs soignants viennent pour la contention. Enfin, moi, il m'a expliqué, on m'a traîné dans le couloir, nu.
On utilise cette méthode pour le sécuriser, sauf que je n'étais pas avertie avant. La façon dont on prend les personnes, c'est brutal. Pour moi, l'enfermement n'avait aucun sens.
Puis je me disais, comment il va s'en sortir? C'est un sacré traumatisme qu'une hospitalisation en psychiatrie.
Je ne comprends pas comment on peut soigner une personne si on l'enferme. Ils sont déjà endormis par les traitements. Ils sont seuls dans une pièce.
Comme il n'y avait pas d'unité adolescent sur le secteur, donc il était en secteur adulte, ce n'était pas non plus les conditions idéales pour un adolescent.
Quand on rentre, on est fouillé. Il y a des interdictions. Ça peut être une ceinture ou quoi que ce soit.
C'est des choses que j'ai vues dans mon travail, bien sûr. Des patients abusés parce que trop sédatés, etc.
Nous, psychologiquement, c'est douloureux, surtout la première fois.
Quelque part, quand il était en isolement, moi, je me disais au moins, il était en sécurité.
Les clés, tout partout où vous allez, vous avez le bruit des clés. On avance, la porte s'ouvre, il y a plusieurs pièces, avec une lucarne, une petite lucarne, À travers la porte, je voyais parfois des personnes passer, des patients. On voit le visage apparaître de son proche et c'est, ça fait peur. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ?
Il s'est jeté sur moi un jour, sur mon épaule, en me disant, mais j'ai cru que vous m'aviez abandonné.
Tout de suite, quand on rentre, on a l'impression d'être dans une cellule. Au départ, quand je suis arrivée, il n'y avait même pas de droit. Enfin, je voyais un matelas bleu. Fenêtre avec des barreaux. Il y a un lit, il y a un lavabo. Isolement. Un mot où j'ai du mal à sortir.
C'est ça, le malade, je ne sais pas. Je me demandais si c'était vraiment ce qu'il fallait faire, en fait. Je me suis posé la question sur nos pratiques.
On entend les gens crier au secours, ils ont envie de sortir, des coups dans les portes, violents. La personne, vous la voyez souffrir en disant « Mais moi, j'en ai marre, je veux rentrer. » Vous entendez tout ça et vous êtes impuissant face à ça.
Il n'y a plus vraiment d'hôpital. Nous, avant, il restait, on prenait en charge le patient, mais longtemps. Les familles, on les laissait souffler.
Dès qu'on sort, c'est l'explosion de larmes parce que ça paraît vraiment pas juste, quoi. C'est pas juste. En tant que maman, on se dit « Mais moi... » J'aimerais bien qu'il soit dehors et moi, je sois à sa place.
Moi, il n'y a jamais une fois où j'ai vu un psychiatre avoir un entretien avec les membres de la famille. Jamais. Le malade, il peut dire ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qui se passe dans la famille. Comment ils font pour soigner leur malade ?
Grandir dans un autre monde. Chez nous, la psychose envahit l'espace. Dehors, il fallait se dissocier, sourire et retenir l'envie d'appeler à l'aide. Je rêvais de fuir. À bout de souffle, j'ai pris mon envol à 18 ans, avec le sentiment coupable d'abandonner ma famille à sa tourmente. Dans ma tête, les souvenirs, les cris, rumination mentale. Elle dérobe mon sommeil. Février 2024.
Ah, c'est ouvert. Oh, bizarre.
Nos retrouvailles.
Y a quelqu'un ?
Salut.
Coucou. Ça va,
ça va ?
Surprise !
Ça va ? Tu faisais quoi ?
Non, je mangeais des céréales.
Salut.
Mets ta caméra, Lisanne.
C'est un enregistreur microphone.
Ouais.
Stéréo.
D'accord.
J'arrive.
Ouais.
Et ta chambre, elle est où,
tu sais ? Là, elle est pas encore allée, je cherche un vestibule.
Ah ouais, c'est là. Ah, mais c'est plus ta bordée.
Ouais, c'est trop.
Ça te fait pas peur ?
Non, je cherche un vestibule, c'est pour
ta mère, va péter un câble, c'est le vestibule.
Je cherche un vestibule.
Il va falloir que tu ranges, là, non ?
Oui, je cherche un vestibule.
Non, mais tu vas chercher. Non, mais pour ta mère, c'est pas possible.
J'ai perdu.
Donc, t'as refait la guitare, ça ?
Ouais.
C'est de quoi ?
Jimi Hendrix toujours.
Tu me feras un morceau après ?
Ouais.
Et comment tu gères tes journées, Ismaël ?
Je regarde la télé.
Toute la journée ?
Ouais.
Faut qu'on te marie maintenant.
Ouais.
Ça va aller. Ouais, ça va aller. C'est marrant, c'est une phrase que ta mère dit toujours. J'espère que ça va aller. Mais t'es sous tutelle, c'est ça ?
Curatelle, renforce.
Curatelle. Ah, pardon, ouais, c'est pas le même. Chut. T'as compris ?
Ouais, avant il vomissait.
Ah, c'est vrai ! Tu vois comme quoi, ouais. C'est des petits détails la vie. Hein. Manger et ne pas vomir.
soit. Il faut que tu partes, réveille ton mari, il faut partir.
C'est que toi, c'est
une raison particulière.
Ouais,
mais l'impression était très forte. Et elle réveille son mari, elle lui dit.
Elle parle de quoi?
J'ai un pressentiment, il faut qu'on parte.
Inconscient.
Voilà, ça sent de réel, l'intuition. Et on s'amuse à faire comme si. Tu vois, je déjeune, tu vois. Je déjeune, puis tu finis dans la vie et on regarde ensemble après. Tu peux le faire?
Mais on peut que écouter.
On peut écouter un café.
Si. Enfin, je peux écouter le son que fait le café quand tu le bois. Mon frère est en train de boire son café sans lait, dans lequel il a mis du sucre.
Oui.
Le café a l'air chaud.
Oui.
Très chaud, peut-être.
Ce que je fais, c'est que je fais à l'italienne comme toi. Et. Ouais, je fais à l'italienne comme toi. Et. Je mets de l'eau dans la poudre. Et le café a un goût de coco.
Ah oui?
C'est du coco. Tu veux goûter mon café? Tu veux goûter?
Ben non, merci. Mais tu as.
Ah merde, dans un verre.
Tu as mis quoi dedans? Donc du sucre?
J'ai mis un sucre.
Et c'est tout?
C'est du coco.
C'est du café qui a le goût de coca.
Ouais, c'est du coca.
D'accord.
Je fais du coca tous les matins. Tu vois, t'imagines, c'est des économies. Well, I stand up next to the mountain. J'adore le café. C'est ma passion. And I chop it down with the edge of my hand. Tu espionnes. Tu vois, regarder comme ça sur ton lit. Tu vois, t'as ta caméra. Et tu passes ton temps à espionner. Tu vois. Tu bois, tu manges, tu bois et tout, tu vois.
C'est drôle.
Tu passes ton temps à espionner. Et tu vas devenir plus belle, et plus grande et plus forte en vieillissant. Et tu vas devenir comme un diamant.
T'aimerais faire quoi?
Vendre mes livres.
Vendre tes livres?
Vendre mes livres, oui.
C'est pas trop tard, hein, tu sais. Après, tu veux faire de la guitare?
Non. Ouais, je vais en faire.
Ok.
Je vais en faire maintenant. Je vais améliorer.
But I don't meet you no more in this world, then I'll meet you in the next one. But don't be late, don't be late. Elle est pas accordée?
Si.
Tout est désaccordé. Le la sonne faux pour moi. Mon frère ne l'entend pas. Une histoire sans fin. Vivre dans la crainte du prochain appel. Où est-ce que l'on se reverra? Je te rêve libre et en paix. Schizophonie, un documentaire de Rislan Hakim, Créadoc 2024, Université de Poitiers, avec le soutien du Polymage Magélis.
Mixage, Étienne Gracianette.
Je remercie chaleureusement ma mère pour son courage et son amour inconditionnel, mes tantes pour leurs précieux témoignages, et mon frère que j'aime et qui m'inspire.
Vous venez d'écouter Schizophonie de Rislan Hakim. Pour Sentier Sonore, sélection de création sonore documentaire de l'Association pour le développement du documentaire radiophonique, ADOR.